Bonsoir à tous. Donc, c'est Sabrina Soyer, alias Gwyneth Paltrow. Et donc, je suis en présence du collectif How to Become a Lesbian. On est un groupe de Gwyn et féministes qui se réunit toutes les deux semaines à Paris pour faire des workshops, des ateliers d'écriture et de traduction. Et ce soir, en fait, on va partager quelques textes qui vont paraître dans la revue qu'on publie prochainement, qui s'appelle « How to become a motherfucking elegist ». Donc, je vais passer la parole à Joyce, qu'on va avoir au téléphone, qui va nous lire un poème à distance.
Allô ?
Allô, Joyce ?
Ouais ?
Voilà, donc Joyce Rivière est avec nous et elle va nous lire son poème qui s'appelle...
J.K.R.
Voilà, je te passe la parole, Joyce.
J.K.R. est une femme qui se déguise en féministe pour tuer d'autres féministes. J.K.R. est une femme qui utilise d'autres femmes contre les femmes. J.K.R. est une femme qui réutilise des discours au parfum capitalisto-colonial. J.K.R., jeune capitaliste radioactive, cherche son eau glacée du calcul égoïste, cherche sa haine de niche, levée contre les remparts du fascisme, première de cordée, ohé ohé, pendre qui veut s'échapper, ohé ohé. J.K.R. est l'émanation de l'esprit de Robert. Robert tue en série, J.K.R. écrit. Robert ou Bob, je lui avais sucé sa bite et j'ai dû supporter sa sueur de sale raciste pour 500 balles dans un hôtel à Versailles. Robert ou Bob peut comprendre ce qu'est une femme trans en la baisant, en la respirant, en la suçant, en la giflant, en la fessant, en la dominant pour posséder son corps. Robert ou Bob ressemble à papa, papa problème, papa à leur blême, papa blanc comme crème, papa le plus beau des assassins. J'aime pas l'armée, mais l'armée m'a baisé sous le canon de flingue du Robert ou Bob qui veut me le faire gober comme mes yeux lassés de trop pleurer. Docteur Robert ou Bob m'a placé sous les cheveux des électrochocs pour me soigner de cette maladie qui me poussait à rejeter le réel, ce que le réel disait de ce qu'il y a entre mes jambes. Docteur Robert ou Bob passe dans mon lit tard le soir, me dévorer la bouche, que je n'ai plus de rêve. Le réel est une cochonnerie. Docteur Robert ou Bob me dit de mourir dans le silence, d'oublier les papillons qui tournent dans mes yeux, d'oublier l'idée de vie. Docteur Robert ou Bob m'a prescrit du risperdal, diagnostic, trop d'imagination. Baise dans les coquelicots. Après avoir hurlé notre rage sur de la riot trap, on s'approche et on s'attrape dans un duel au soleil pervers, nos pieds nus sur une rosée encore fraîche, nos salives mêlées à nos peaux, te mettre des doigts, te saisir les cheveux, te lécher où tu veux, répondre à toutes tes provocations. Baise dans les coquelicots, que je base sur tes cheveux rouges, je suis défoncé par ta voix, à force de te respirer, tu brûles bébé. Baise dans les coquelicots, sous ta chemise à pois blancs, je caresse ton ventre de velours et je laisse basculer ma tête vers le ciel en pensant à celle que je n'ai jamais connue, Duna, celle qui est morte trop tôt, Duna. Baise dans les coquelicots, des queers, ailleurs et à la radio, encore nous oublie, nous n'avons que les couteaux, en guise de poésie.
Donc là, on va lire un petit extrait d'une traduction de The City de Cathy Hacker, qu'on a fait avec Rosanna, Nina, Mélanie et moi-même, et Hélène qui n'est pas là. Ville. Constructivisme russe. Abstraction. Pétersbourg. Ma ville. Clocher. Triangle. Clocharde. Pétersbourg, dans les rues décrépissent les églises défoncées, églises, églises finies, églises reconverties en foyers à clochards pour enfants arrachés des immeubles abandonnés, Yelcourt. Fils. Une ville de gens panella qui ont décidé de vivre là, qui sont SDF, qui essayent de vivre leur vie, pauvres réfugiés, artistes, gens riches. Des gens qui s'en foutent et s'en foutent pas du tout. SDF. Toi, bébé berceau, sauf que l'URSS t'a démis. Toi, ville, dont l'une de tes rues est bordée d'une centaine de clochards assis, debout et couchés. Les trois quarts des clochards sont noirs ou portoricaines. Le béton pue encore plus la pisse que les rues qui sentent autour. Quelques-uns de ces dégueulasses fument des cigarettes. La moitié des bâtiments qui longent la rue forment un mur de briques rouges. La plupart du temps, les clochards bougent pas ou bougent le moins possible. Comment cette ville des villes est-elle divisée?
Cette nouvelle ville sainte est une réalité non seulement sans religion, mais aussi sans désir ni quête. Sans rien. Ville dont la première caractéristique est qu'elle ne donne rien. Dépression, et donc ses habitantes individuelles, non ses communautés, doivent tout faire par eux ou elles-mêmes. Comme enseigné à l'école, Pétersbourg est divisé en 5 parties. Sa partie principale est la perspective Nevski.
Saint-Pétersbourg est, en fait, la perspective Nevski. La perspective Nevski est une île reliée par des ponts. Une fois à sa pointe nord, deux fois au sud, et une fois de son extrême est jusqu'au reste de Pétersbourg. Bien que Pétersbourg soit la capitale de l'URSS, la plupart des Russes qui ne vivent pas à Pétersbourg haïssent et craignent les pétersbourgeoises, pensent qu'elles sont des meurtrières, des droguées, des perverties par la gloire. Des lampadaires bordent le parc qui s'étale au cœur vertical de la perspective Nevski, depuis son commencement à Saint-Isaac, à une cinquantaine de blocs au nord, jusqu'à sa section noire dans la profondeur de la 17e ligne. Les divisions géographiques sont en fait raciales. Les ghettos, chacun long de 9 à 16 pâtés de maison, ne se mélangent pas. L'année dernière, les ghettos ont commencé à physiquement se croiser parce que maintenant les riches essayent, et d'ailleurs ils y arriveront, de s'emparer de la ville entière en achetant tous ses biens immobiliers. Les îles, en particulier l'île Vassilevski, sont des oasis de la drogue.
Les foyers de putes sont Milionaya, encore l'île de Vassilevski, les macs rendent toujours les poupées accros, le large, pont noir qui traverse la Neva et le canal d'hiver. Les langues sont à moins de 50% russes, puis, entendu moins souvent dans cet ordre, espagnol, français et allemand. Pétersbourg n'est pas russe, c'est un pays en soi. Dès lors que son statut national n'est ni légal ou financier, c'est une impossibilité, une impossible maison précaire, paranoïde. Sa définition et sa langue relèvent de la théorie quantique, du zen et du nihilisme d'avant la révolution russe.
Concaténation carrée d'imagination quadrilatérale manquant des autres sensualités nécessaires. La chair qui touche la chair doit ressembler à de la crasse martienne verte. Ville d'espaces intérieurs et extérieurs simultanés, où chaque jour une nouvelle maladie humaine apparaît, dont les habitants, comme des rats, vivent et travaillent à travers la maladie. Qui peut dire que je suis trop malade pour travailler ? Ma maladie est la vie. Toi, ma ville, romantisme d'aucune croyance possible.
Un matin, dans Peter, l'haltérophile femelle est tombée de son lit superposé. C'était une belle journée fin septembre. Les alouettes chantaient et des gouttes de soleil filtraient à travers les levelers bleus marines, à travers les nuages, à travers la pollution, à travers les murs des bâtiments autour, qu'elle n'avait pas ouvert depuis qu'elle les avait achetés, parce qu'elle ne voulait pas voir les junkies se shooter. Un journal sous son corps à terre.
Ville de passion. Un incapable.
Georges était complètement emballé.
Non leader, non...
Dans le monde fantastique.
Et pas romantique.
Bande dessinée.
Ex-camarade de classe.
Il était aussi cons...
Lantine.
Avec la télé en particulier.
Il avait 18 ans, Georges.
Turchose.
Stiné pour finir en un...
Par les hautes études.
Puis une horrible.
S'était retiré. Pendant ce temps, dans les ruelles, cher Peter.
Je ne supporte pas de vivre sans toi. Je déteste cette constante attente de toi. Jour après jour, tu n'es pas là. Toutes mes heures passées à languir ce qui est absent. Je n'accepterai pas de vivre comme ça. Et puis je m'aperçois que je tombe amoureuse de toi. Il n'y a personne sur qui se reposer. Encore et encore, je découvre que je n'ai que moi-même. 16 heures avant de te revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je peux compter jusqu'à 16. Mais tu ne voudras sûrement pas me voir. Je te verrai, je te voudrai. Si je te vois pas, je meurs. Je collapse. Je m'en tape d'écrire. Je veux juste du temps. Je peux envoyer foutre cette nuit en colmatant mes yeux de travail, de calculs cérébraux, télé débilisante. Tu t'es rué dans mes bras, folie. Je t'attendrai pour toujours si seulement tu venais à moi, car le temps n'existe plus jusqu'à ce que je te voie. L'amour crée le temps et la vie. Je dois être aveugle, tu es pauvre. Ta vie est en désordre. Plus tu veux une chose, plus tu t'en refuses l'accès. Toi, mon cauchemar, je m'en fous, tu m'as conquise.
Toi, le lunatique totalement déglingué, rends-moi aussi irritable et transformable que toi, que je fasse de moi-même ton rocher de Gibraltar pour te capturer. Mais je te veux pas. Je veux pas que tu brises ton mariage, je veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui puisse te faire du mal. Je dois perdre, mais si tu ne viens pas me voir demain, je ne dois pas perdre parce que tu ne m'aimes pas. Alors, le grand amour est étrange et toute simplicité entre nous doit être du mensonge. Je ne sais pas ce que je fais. Tu es la seule vie que j'ai connue depuis si longtemps. Comment puis-je laisser tomber la vie à nouveau ? Tu es mon jour et ma nuit. Laisse tomber, gamine. Il t'a clairement dit qu'il ne voulait pas baiser avec toi et il te veut que pour se venger sur sa femme parce qu'une fois, elle s'est barrée avec un mec plus riche. Tu es ma folie. Viens en moi, ma folie. Et puisque tu m'as déjà prise, je t'en supplie, de tout mon être, prends-moi. On m'a vendue, mais pas encore consommée. Le jour où je te vois, je suis heureuse. Et le jour où je te vois pas, je suis misérable. Mon infirmière entre et m'attache. Infirmière.
Ta gueule, sale gosse. Moi. Je ne parle pas car je peux pas parler de toi. J'imagine que je suis obsédée, possédée. L'Espagne avait besoin d'une révolution. Une révolution bien plus profonde, en fait, que celle que tente de mener la République. Je suis liée par des cordes parce que tu me baisses pas. À voix haute, autorisée. Des cordes me lient parce que tu ne me baisses pas. Tu t'éloignes de moi, Juliette.
Tu t'éloignes. Il fait toujours nuit noire et moche. Tu n'es pas encore obligée de partir. Toi. Il fait jour, il y a des bougies. On peut voir le commencement des nuages. Depuis que ce monde, pour sa lumière, n'a plus besoin d'étoiles, comme la salope de jalouse qu'elle est, elle les a éteintes. Le jour, comme la révolution totale, attend de s'infiltrer. Je dois m'éloigner de toi pour que ma vie continue. Juliette. La lumière qui jaillit en toi est pour moi aussi violente que la mienne pour toi. Comme tu dis, nous n'avons rien à voir avec la nature. Le feu entre nous défie le soleil. Je garderai ton feu de solitaire contre nature en feu. Je te suivrai incognito. Tu n'as pas besoin de jamais me quitter. T'en vas pas, toi. Ok, je vais rester près de toi et je vais mourir. Je cède à ton amour. Ces lignes de lumière naissantes dans le ciel sont les ruissellements de sang sur tes livides et innommables cuisses. La lumière invisible du jour qui s'approche n'est pas diurne, mais lune de ta force et grâce. Puisque sans toi je meurs, et qu'avec toi je meurs, je choisis de mourir avec toi, ma vie, et de toute façon, je n'ai pas d'autre choix. Il fait toujours nuit noire et moche. Juliette. Résigné. Vas-y, casse-toi. Ce monde est trop dégueu. On ne peut pas faire semblant que ce monde n'existe pas. Les fascistes ont pris le pouvoir. Tout ce qui est normal et beau nous divise. puisque le normal est maintenant anormal et que l'anormal est normal, celles qui aiment ne peuvent pas savoir. Comment suis-je censée savoir quoi faire ? C'est le jour. Vas-y, dégage.
Cher Peter, s'il te plaît, comprends-moi. S'il te plaît, crois ce qui se passe dans ma tête à cet instant précis. Je fais tout ce que tu veux. Maintenant, tu veux être loin de moi parce que tu baisses ta femme. Tu es le seul être que j'aime et ce moment est infini. Je ferai n'importe quoi pour t'appeler là. Mais parce que je n'ai pas le droit de t'appeler, je te déteste. Parce que je te déteste, je t'appellerai plus jamais. Parce que je te déteste. Je dirai ton nom pour que le monde entier sache. Parce que ce qui t'effraie le plus, ta seule morale, c'est ce que les autres, et peu importe si elles te connaissent ou non, ce que les autres pensent de toi. King Sunny Adé, King Sunny Adé, je hais tes tripes. Tu étais mon soleil, et ta maison était ma maison, était mon havre, et tu m'as foutu dehors comme une môme sans abri. Tu disais, tout ce que tu veux, c'est la sécurité, donc en fait, tu m'aimes pas du tout. Et tu n'as même pas compris que je t'aime. C'est pour ça que ce moment est infini.
Pourquoi je t'aime ? Bien, parce que je sais que t'es tellement égoïste que te le costerait l'univers plus vite que Margaret Thatcher. Tu comprends pas ce que c'est l'art parce que t'as tellement peur de la sauvagerie avec laquelle toi, l'artiste, tu te fais mousser. T'essaies d'éradiquer chaque faiblesse, surtout celle des autres. Parce que c'est ce que tu vois, alors tu exiges certains comportements et n'acceptes rien d'autre. Quand les gens agissent différemment, parce que tu enfouis tes sauvageries, il y a plus de colère qui volcanise hors de toi que ce que j'ai senti venir de n'importe quel autre être humain.
Je t'aime bien parce que tes yeux me regardent d'une certaine manière, et parce que ton nez tique. Tes aptitudes mentales sont au moins aussi vives et rapides que les miennes. Quand t'es pas lamentablement dominé, t'es aussi décadent que moi. Pourquoi t'en as pas rien à foutre des conventions sociales ? Pourquoi pas devenir artiste ? Je vais baiser tellement de mecs là s'ils veulent bien me baiser parce que j'ai besoin de cette réassurance physique et je suis sûre que pendant que je ferai ça, il y aura toujours une pensée pour nos baises. Entre toi et moi, il y avait une folie rare, pas seulement la sexualité.
Je vais vous lire le pantalon, donc peut-être il va faire partie de leur vue. Le pantalon. Le pantalon, c'est quoi ce pantalon ? Le pantalon est assorti au tapis, ou pas vraiment. Une pochette et un carnet traînent ici, à côté du tapis. Le tissage du pantalon et du tapis ne peuvent se comparer immédiatement. Le fil du tapis doit être certainement beaucoup plus large. Cela lui donne un côté ouateux. Il nous arrive d'avoir envie de caresser un tapis. Oui, c'est vrai. J'ai aussi ce truc quand... Comment dire ? Quand... Quand je sais plus ce que je voulais dire. Peut-être je voulais parler des murs en tissu, tu sais, ou... On entend le bruit de la pluie qui tombe sur les feuilles de l'arbre dans la cour. Ceci doit apparaître comme une sensation agréable. Il fait doux, presque chaud et moite. À l'instant. 4. Déploiement des arbustes dans l'espace. Bruit du vêtement, bruit du tissu. Il faut bien choisir le tissu du mouvement. Vos mouvements pourront être plus amples s'ils sont larges. Le personnage tourne à droite. Il lit. Un institut au service de l'histoire. Un autre pantalon. Deux pantalons. Un pantalon assorti au sol, ou presque, des extrémités, les pieds. Un sur le sol, un se soulève, l'autre reste à terre. Un autre pantalon à côté, la version presque pareille de l'autre pantalon. Ses extrémités, à lui, sont beiges. Les deux pantalons sautillent et bougent en cadence. La couleur du sol se situe entre les deux pantalons. Le tapis est poussé.
Most masculine and civilized of poetry, as formerly polished, might also derive from a fear of the chaotic and seemingly uncontrolled speech of woman, she adds. In this context, Some elegists also came to justify their winning in padding their lines with Roman tears and so redeem their own feminine traits. Women were not exactly denied entrance to funerals, as earlier during Solon, Athenian statesmen and poets, some were considered to have established democracy in Athens, restricted mourning's ritual access to those only who could inherit both name and property. Early modern citizens from England essentially enrolled women in the caring and the cleaning of the dead. Literary schools excluded females. So did poetry circles accordingly, in its requirement to know how do poems work metrically, morally, and rhetorically speaking. However, Brady mentions several female elegists who, like Marie Carey or Anne Bradstreet, wrote poems more often for their dead child or dead father, but far less intended for publication. Like mourning, publication exposed women's imagination and potentially disruptive emotions to the public gaze. Elegies worked as a dialectic, separating men's grief from women's grief, public elegies from private dirge, Christian funerals from folks' rituals. Women in mourning are friends yet slugs, sorrow's ferrymen. But the ability of the latter to place themselves among a patrilineal poetic body allows them to master uses and feeling coded femme, in turn to patriarchize the audience, patriarchize memory.
Maintenant, je vais lire une traduction d'un texte qui s'appelle Proxy, écrit par l'autrice R. Erika Doyle, traduit par moi-même, Léa Vassal et Aurélie Jacquet. Tu es une bête de la troisième génération dans la première génération d'un monde de jambes écartées. Tu avais 6 ans quand tu as lu Le Marquis de Sade de ta mère. Cela donnait tellement d'explications sur les choses de la maison. Le Kama Sutra a 7 ans, mais tu es restée impassible. Pareil à 8 ans, devant les illustrations flaccides dans les joies du sexe. Et pourtant, les peintures de Shoji à 9 ans, des kimonos ouverts sur d'épais pénis blancs, leurs courbes ciblant des vulves plissées. Tu les abordes la première. Tu fais bien attention aux détails, tu te montres intéressée et facilement amusée. Les femmes aiment ça. Toujours vorace à les lire, tu tournes leurs pages, mémorise les règles fondamentales de leur grammaire, leurs propositions conjonctives. Une question en aparté qui les prend de court. Les femmes sont si polies, sillonnées par tellement de frontières. Parfois, c'est comme du vol. Prendre quelque chose que tu ne veux pas vraiment juste parce que. T'en tirer avec. Parfois, tu leur dis que tu les aimes. Parfois, pas souvent, c'est vrai. Tu restes suffisamment en retrait pour qu'elles restent curieuses. Les femmes aiment ça. Être blessée juste assez pour être récupérable. Les femmes aiment ça aussi. Réparer des choses. Dupées par l'aile brisée que tu laisses traîner comme un leurre. Tu baises avec art. Tu es déçue par les gaucheries inélégantes. Tu leur donnes une autre chance juste pour apaiser tes amis horrifiés. Tu dis « je l'ai baisé 2 fois » pour éviter les persiflages du coup d'un soir. Non pas que la sphère publique réda ta réputation ou ta vie sexuelle. Certaines choses ne se bonifient pas avec le temps. Tu es affamée. Chacune a un goût différent. Ta langue, généreuse, partout elle presse ta bouche. Des plis de peau collants de sueur, de poils et du jus si particulier d'une aisselle. Tu n'es pas propre. Tu n'es pas fraîche, tu n'es pas satisfaite par des préliminaires prolongés. Tu veux de la baise. Tes mains remplissent des chattes, au plus profond qu'elles encaissent, à la limite de la douleur et de la peur. Leurs cris, carillons de cloches délicieuses. Petites, grandes, rugueuses, douces mains qui agrippent. Parfois, tu fais de toi une offrande. Elles pensent te prendre et tu t'ouvres grande pour les avaler entières. Tu n'es pas généreuse. L'une prend le dessus et te baise à sec avec la grosse bite noire, sans répit, te baise le cul, gicle le lube et te retourne encore. Et encore une fois, tu prends tout. L'une repousse ton poing. Tu reviens sur tes pas et tu la titilles jusqu'à ce qu'elle supplie, à quatre pattes, le cul comme une pleine lune des moissons. Une position délicate, du sang se déverse sur ton poignet. Tu ne fais pas de promesses. L'une se précipite dans la douche, Alette s'étouffe avec de l'eau, sa bouche pleine, détournée de toi, une langue que tu as mordue pendant des heures. Tu ne projettes pas de suite. L'une, tu l'amadoues et la supplies et la cajoles. Elle ne dit pas oui, mais elle ne dit pas non. Tu suces son trou de cul jusqu'à ce que son con soit mouillé et tu la baises avec ta langue jusqu'à ce qu'elle gémisse. Tu n'es pas conjonctive. L'une s'assoit sur ta bite pendant que tu penses à son mec. Tu es parfaite. L'une pleure de l'urètre pendant que tu suces son clit. Tu es dangereuse. L'anus de l'une devient incontrôlable à l'approche de ton doigt. Tu es sans remords. La jeunesse de l'une te laisse des marques nettes sous le genou. Tu es née. Quand tu ne peux pas baiser, la faim te fait errer dans les rues seule et pleurer. Si la lune est pleine, ton utérus est un cratère douloureux. La docteure dit que tes hormones déconnent. Elle veut que tu prennes la pilule pour les stabiliser. Elle te donne l'impression d'être enceinte et amère et tu n'arrêteras pas de fumer. Tu ne la prends plus même si ça veut dire que tu auras le cancer. Tes ovules luttent contre la membrane et attendent d'être relâchées pour y mourir et pourrir. Qui se te fait-il ? Sur l'échographie, tes ovaires sont comme des astéroïdes contre les pavillons de tes trompes de Fallope. Quand tu ne peux pas baiser, tu écris sur ne pas baiser. Tu prévois la prochaine escapade, rêve de pécho des Australiens aux yeux bleus. Tu embrasses des femmes assez jeunes pour être tes filles, te masturbes plusieurs fois par jour et n'arrives pas à travailler. Tes amis te disent que c'est bien pour toi, que tu as besoin d'arrêter de baiser autant, que si tu le faisais moins, tu y penserais moins. Et elles mentent comme d'habitude. Tu penses qu'elles sont jalouses de comment tu le nourris, tu te nourris, comment Yael et réprime leur propre gourmandise. Tu penses au péché, à l'église, au prêtre, que le capuchon du clitoris est comme une nef de cathédrale. Tu n'es pas pénitente. Quand tu n'as pas baisé assez longtemps, tu prends de mauvaises décisions de baise. Tu baises une avocate qui n'a jamais baisé une femme. Les femmes sont si gentilles, dit la Vierge. Les femmes sont si sensibles et attentionnées. Son espoir est un virus. Tu ne dis rien. Elle fait de bons gâteaux au rhum et veut regarder la télé. Tu baisses sa toute petite chatte avec trois doigts pendant que tu suces patiemment son clito. Tu es sans manière, tu désabuses. Tu baisses ta meilleure amie la nuit avant l'enterrement de ton père. Tu baisses la meilleure amie de ton ex la semaine avant que tu te remettes avec ton ex. Tu tombes amoureuse. Tu tombes amoureuse d'une étoile, d'une autre constellation, ville, état, relation. Ses amantes ont bonne réputation et les cheveux noirs. Elle te rencontre dans la backroom de ta chatte. Tu la baisses dans le fauteuil devant la cheminée quand son amante n'est pas là. Tu décroches les lacets de ses lèvres et fourres ta main sous les revers contusionnés de sa chatte. Son visage est une montée de chaleur subite, lèvres bleuies par tes dents. Tu aveugles, attaches, frappes. Sa géographie abîme tes tétons. Tu la cartographies sur des corps réticents. Tu reconnais un verre de cristal à son champ sous tes doigts humides. Tu prêtes de l'argent. Quand tu ne baisses pas, ta générosité ne connaît pas de limite. Quand tu n'as plus d'argent, tu partages ta nourriture. Quand tu n'as plus à manger, tu donnes de bons conseils. Tout le monde te dit que tu devrais être psy. Tu mens depuis que tu as 6 ans. Le marquis de Sade s'intéressait surtout aux apparences. Ta mère utilisait ton histoire originelle pour rassasier les troupes. Ton hormone luthénisante ne libéra pas les ovules. La chatte a rendu son verdict. La gynéco a ri. Tu avais 18 ans et elle pensait que ta condition de 100 bites était une blague. Tu n'es pas une blague et tu as tes propres bites. Tu refuses de faire l'amour. Prendre la voie de la consommation et lui faire la nique. Le rebord de la baignoire, le bras du sofa, le cheval à bascule de ton frère, fruits, légumes, langue, poing, téton, doigts, orteils, brosse à dents, bouteilles, bougies, poignées, plastique, porcelaine, silicone, verre.